magazine des Nations Unies.
Au sommaire, il faut 6 millions de dollars américains pour prendre en charge 280 000 personnes déplacées dans la province du Tanganyika. Une mission humanitaire conduite par le Bureau de coordination estime que la situation est très préoccupante et lance un cri d'alarme. Les détails dans cette édition. Alors qu'il y a controverse autour des funérailles de Tenshi Tshisekedi, la MONUSCO interpelle les parties prenantes à l'application de l'accord du 31 décembre, une façon d'honorer la mémoire du sphinx de Limété. Et enfin, la relocalisation de 26 000 réfugiés sud-soudanais des territoires de Dungu et Farage dans le Haut-Touélé requiert des préalables, estime les HCR. L'agence onusienne se félicite néanmoins de l'arrêté du gouverneur Lola Kisanga visant à éloigner ces réfugiés de la frontière. Voilà tout pour les sommaires.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine. La situation humanitaire est préoccupante dans la province du Tanganyika. Selon les Nations Unies, il faut mobiliser d'urgence 6 millions de dollars en vue d'assurer la prise en charge de plus de 280 000 déplacés. Nous recevons dans ces studios Jean-Pierre Elali pour en parler. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Nadine. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut agir vite pour venir au secours en vivres à plus de 250 000 déplacés internes dans les territoires des Kabalo, Kalemi, Manono, Moba et Nyunzu dans le Tanganyika. C'est le constat d'une mission d'évaluation conduite par le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, qui s'y est rendue du 23 au 28 janvier dernier. Florence Marshall, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies en RDC, est revenue mercredi dernier à la conférence hebdo des Nations Unies sur l'urgence de cette assistance. Je vous propose de l'écouter d'indigne.
La situation humanitaire demeure préoccupante dans la province du Tanganyika, où plus de 530 000 personnes déplacées internes ont été enregistrées depuis 2015, avec près de 70% d'entre elles depuis le mois de juillet dernier. Selon une mission d'évaluation effectuée il y a deux semaines, au moins 6 millions de dollars américains sont nécessaires pour assurer d'ici la fin avril l'assistance en vivres à plus de 280 000 personnes affectées par les conflits intercommunautaires dans les territoires de Kabalo, Kalemi, Manono, Moba et Nyunzu. Les acteurs humanitaires sont à pied d'œuvre afin d'apporter de l'assistance aux personnes déplacées. La province du Tanganyika n'est pas la seule affectée par les crises et les déplacements internes. Sur l'ensemble du territoire de la RDC, on dénombrait fin 2016 plus de 2,2 millions de personnes déplacées internes, dont 52% sont des femmes et des jeunes filles. Avec 40% de personnes déplacées, le Nord Kivu est la province la plus affectée.
Selon les statistiques officielles, plus de 530 000 déplacés internes sont enregistrés depuis 2015 dans cette partie du pays, suite bien entendu au conflit intercommunautaire Luba Pygmy qui enflamme les Tanganyika et les territoires des Mitwaba et des Pweto dans le Haut-Katanga. Il faut noter que quelques ONG internationales comme OFAM ou ACTED sont à pied d'œuvre pour appuyer la réponse aux besoins humanitaires des déplacés. Mais comme nous l'avons dit Nadine, une contribution substantielle de la communauté internationale est attendue pour sauver des vies humaines dans cette partie du pays.
Merci beaucoup Jean-Pierre Elali. Et maintenant, nous parlons de cet appel de la MONUSCO aux acteurs politiques congolais. Ceux-ci doivent faire des efforts pour l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, une façon, selon la mission onusienne, d'honorer la mémoire du grand ténor de l'opposition, Étienne Tshisekedi, mort la semaine dernière à Bruxelles. Félix Prosper Bass l'a dit mercredi dernier lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. On l'écoute.
C'est avec tristesse et consternation que nous avons appris le décès de ce grand leader de l'opposition politique qui a œuvré toute sa vie pour promouvoir la démocratie dans ce pays. Vous savez aussi que les parties prenantes à ces dialogues, ou en tout cas les discussions sur les arrangements particuliers qui étaient en cours, ont été suspendues. Donc, comme un accord, aussi bien les membres de la magistrature présidentielle que ceux de l'opposition représentés par le Rassemblement, justement justement pour saluer la mémoire de Monsieur Étienne Tshisekedi, dont la contribution est inestimable dans ce processus d'arrangement particulier, ou en tout cas parvenir très rapidement à un accord. Donc je pense que l'espoir est encore permis, il ne faut pas justement désespérer, et je pense d'ailleurs que pour la mémoire du disparu, les acteurs devraient redoubler d'efforts, parce que aussi les populations congolaises sont accrochées justement à ces décisions qui devront être prises rapidement pour que nous puissions entrer dans cette période de transition qui nous mènera très prochainement à de futures élections.
Sachez que ces propos ont été recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko. Autre actualité, aujourd'hui dimanche 12 février, c'est la journée internationale des enfants soldats. Occasion pour les gouvernements du monde entier de réfléchir sur les mécanismes de prévention et de lutte contre ces phénomènes. En RDC, en application du plan d'action signé en 2012, le gouvernement a pris une série de mesures qui ont conduit depuis 2 ans à la cessation du recrutement d'enfants par les FARDC. En 2016, grâce à l'action de l'UNICEF et de ses partenaires, 3443 enfants, dont 478 filles, ont quitté les groupes armés dans les zones touchées par les conflits.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Au moins 26 000 réfugiés sud-soudanais des territoires de Dungu et de Farage doivent être relocalisés selon un arrêté du gouverneur du Haut-Touélé Jean-Pierre Lola Kisanga. Mais voilà, cette relocalisation ne peut se faire sans quelques préalables selon le HCR. Andreas Kirchhoff, porte-parole du HCR, s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Andreas Kirchhoff, bonjour.
Bonjour.
Oui, nous vous recevons dans ces studios pour parler justement encore de réfugiés, et notamment des réfugiés sud-soudanais. Le gouverneur du Haut-Ouélé vient de prendre un arrêté autorisant la relocalisation de ces réfugiés des territoires des Dungu et des Faragé vers celui des Rungu, conformément aux normes internationales. Combien de réfugiés sont-ils actuellement à Dungu et à Faragé?
Tout d'abord, nous saluons cette initiative des autorités provinciales de trouver des endroits pour les réfugiés plus éloignés de la frontière avec le Sud-Soudan. En territoire de Dungu et Faragé, donc au Ouélé, il y a presque la moitié des réfugiés sud-soudanais sous sol congolais. Ils sont à 26 000. Oui, mais il faut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tous les réfugiés ils peuvent être relocalisés tout de suite. Il y a plusieurs pas encore à faire dans ce sens.
Donc, on peut dire que pour l'instant, les ACR n'est pas prêt à opérer ces transferts.
D'abord, il faut voir si les réfugiés eux-mêmes ils veulent être relocalisés, parce que on peut bien identifier de nouveaux sites. Si il y a personne qui veut aller là-bas, ça sera un problème. Du côté du HCR, on soutiendra une relocalisation volontaire, comme on a déjà vu dans d'autres parties de la région.
Et alors, une telle relocalisation n'irait pas sans poser des problèmes, hein, surtout des problèmes matériels et logistiques, Andreas. Et à notre avis, comment les HCR comptent-ils s'y prendre? Quels sont les préalables, selon vous?
Il faut plusieurs pas. D'abord, il y a une équipe du HCR qui est déjà en route pour évaluer ce site. Ça va commencer cette semaine. On va voir s'il y a la possibilité, s'il y a l'eau, si les sites ont tous les caractéristiques requises. Et après, comme je disais, il faut voir avec les réfugiés qui veut effectivement aller là-bas. Et là, on voit des différences. On a surtout à Douruma, vers la ville de Douruma, il y a des réfugiés qui vivent dans une zone très insécure, où il y a plusieurs groupes armés, et ces réfugiés ils seraient plus prêts à se faire relocaliser. Mais il faut encore chercher des informations sur cet aspect-là.
Donc il faut prendre du temps et c'est ça?
C'est pas pour demain la relocalisation, malheureusement.
Ah oui. Parlons maintenant d'autres réfugiés sud-soudanais basés notamment en Ituri. Combien sont-ils pour l'instant?
En Ituri, c'est l'autre province qui accueille beaucoup de réfugiés sud-soudanais. Il y a environ 40 000 réfugiés. La plupart d'entre eux ils sont toujours proches à la frontière avec le Sud-Soudan.
Et comment se passe la prise en charge de ces côtés-là?
Les HCR et son partenaire gouvernemental, la Commission nationale pour les réfugiés, CNR ont mis en place un site à Biringi, en territoire d'Arou. Mais il y a, pour le moment, il y a juste un peu plus de 1000 réfugiés qui se sont rendus là-bas. En plus, on a eu dernièrement des problèmes avec certains groupes de réfugiés qui ont exprimé un mécontentement avec le niveau d'assistance. Pour le moment, il n'y a pas tous les partenaires qui sont sur place. Je pense qu'on a pu résoudre ces problèmes ensemble avec les réfugiés. On a discuté, on encourage plus des réfugiés à quitter la frontière pour venir plus à l'intérieur du pays.
Donc, eux aussi auraient besoin d'être relocalisés vers des zones plus sécures.
Effectivement, pour le moment, on voit pas un grand impact des combats au Sud-Soudan sur la région frontalière, mais il est dans tout cas recommandé d'éloigner les réfugiés de la frontière.
Voilà, nous venons de parler des réfugiés sud-soudanais qui sont basés au Haut-Uele et le gouverneur de cette province vient de prendre un arrêté autorisant leur déplacement vers des zones beaucoup plus sécurisées. Nous avions reçu pour ces faits M. Andreas Kirchhoff, qui est porte-parole du PACER en République démocratique du Congo. Andreas, Radio Capi vous remercie.
Merci beaucoup.
Quelques nouvelles en bref. Environ 2700 enfants de moins de 5 ans seront pris en charge contre la malnutrition aiguë sévère dans la zone de santé de Kinda, dans le territoire de Kamina, dans la province du Olomami. C'est dans le cadre d'un projet de 6 mois mené par l'ONG Action contre la faim, ATEF, et financé par l'Office d'aide humanitaire de la Commission européenne ECO. L'UNICEF, quant à elle, met à la disposition de la zone de santé des intrants nutritionnels et assure la formation des prestataires de santé. Direction maintenant Goma au Nord Kivu, le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs a organisé du 31 janvier au 2 février une journée porte ouverte sur la résolution 1325 avec le soutien de la MONUSCO et des ONU Femmes. 30 femmes de 5 pays, les responsables et ministres en charge du genre de 5 pays ont pris part à cet événement. Ces journées porte ouverte ont permis l'élaboration des recommandations adressées aux différentes structures nationales, régionales et internationales. Et nous terminons par cet engagement du gouvernement et la FAO dans le cadre d'un projet visant à aider les communautés à préserver les écosystèmes dont la destruction réduit la disponibilité en eau, restreint l'offre de bois, de chauffe et compromet la sécurité alimentaire des populations pauvres. Ce projet a été lancé le 1er février à Lubumbashi.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le 4 février, la communauté internationale a célébré la journée mondiale du cancer. Aujourd'hui, le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien que le docteur Adolphe Kongolo de l'OMS avait accordé à Honoré Missenga sur le cancer du sein. Suivez.
Docteur Adolphe Kongolo, bonjour.
Bonjour, monsieur Honoré.
Le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez la femme africaine. Quel est l'état des lieux en République démocratique du Congo?
Malheureusement, en République démocratique du Congo, la situation du cancer du sein n'est pas connue.
Pourquoi?
Parce que nous n'avons pas encore un registre national de cancer. Et les efforts sont en train d'être faits par le gouvernement avec, bien sûr, l'appui de l'OMS et des autres partenaires pour qu'on dispose au moins d'un registre national de cancer qui nous permettra d'avoir la situation du cancer dans le pays.
Mais au moins, il y a des femmes qui souffrent de cette maladie.
Certainement et beaucoup. L'OMS a appuyé une petite récolte des données dans 25 hôpitaux. On s'est rendu compte que la situation est dramatique.
Docteur, parlons un peu de la maladie elle-même. Quels sont les signes cliniques d'un cancer du sein?
Le premier signe, c'est d'abord une tumeur, une boule. C'est une masse que la dame ou le clinicien va constater dans le sein d'une femme. Il peut aussi voir des ganglions qui sont au niveau de l'aisselle. Après, cette boule peut évoluer. On peut en voir certains signes au niveau de la peau, même une ulcération, même le mamelon qui peut se rétracter. On peut avoir même un peu d'écoulement. Donc ça, ce sont des signes qui peuvent déjà faire penser à un cancer, mais quand ça évolue, on peut avoir des signes même généraux, tels que des nausées, des vomissements, des pertes de poids, des jaunisses. Là, c'est quand ça devient très très compliqué.
Donc, toute boule dans le sein d'une femme est un signe d'un cancer?
Je ne dis pas signe d'un cancer, mais ça doit faire penser, ça doit pousser la femme à vite consulter, très vite consulter.
Le cancer du sein n'attaque que les femmes?
Non, vous savez que les hommes aussi ont des seins. Les études ont démontré qu'il y a moins d'1% de cancer de sein qui attaque aussi l'homme, puisque le sein de l'homme n'est pas développé, mais sachez que les hommes peuvent aussi faire un cancer de sein.
Alors, quels sont les facteurs de risque du cancer de sein?
Il y a plusieurs facteurs de risque. Bon, il y a des facteurs hormonaux. C'est par exemple quand une femme est exposée longtemps aux œstrogènes, des hormones internes qui sont sécrétées par les femmes. Par exemple, si une femme a une puberté précoce, donc c'est-à-dire que l'exposition commence plus tôt, ou encore une femme a une ménopause tardive, c'est-à-dire qu'il y a une ménopause autour de 55 ans. Alors ça, c'est une longue exposition. Ou bien si un médecin prescrit des œstrogènes pendant longtemps, surtout chez les femmes qui ont des ménopauses, alors là, ce sont des facteurs hormonaux qui peuvent aussi penser des risques. Il y a des facteurs liés à la reproduction, par exemple une maternité tardive, au-delà de 35 ans, et surtout pour les femmes qui ne veulent pas allaiter leur enfant. Mm-hmm. Tu accouches, mais tu refuses d'allaiter l'enfant. Vous savez, l'allaitement est un facteur protecteur contre les cancers du sein. Ce qui fait qu'une femme qui allaite le plus longtemps possible se protège elle-même contre le cancer du sein. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, démographiques. Par exemple, s'il y a un antécédent de cancer de sein dans la famille. Alors, si vous savez que dans votre famille, il y a une femme qui a fait un cancer du sein, vraiment faites très attention. Par exemple, les facteurs environnementaux. Il faut que les femmes qui ont moins de 40 ans évitent le plus possible les radiations ionisantes. Par exemple, les radiologies, des choses comme ça. Mm-hmm. Il y a des produits aussi comme le biphénol A qui peuvent aussi être des facteurs favorisants. Et il y a aussi des facteurs liés aux habitudes, hein, la vie, à la nutrition. Par exemple, l'obésité, la sédentarité, le manque d'exercice physique, la consommation excessive des graisses animales, l'alcool.
Le tabac aussi.
Oui, le tabac. Pour ce qui est de l'âge, ce qu'il faut savoir, que le risque devient plus grand avec l'âge. Par exemple, chez les femmes qui ont, par exemple, moins de 35 ans, ils ont environ 10% d'avoir des cancers de sein. Et près de 50 ans, autour de 20%. Mais c'est beaucoup plus les femmes entre 50 et 69 ans qui ont le plus de chances d'avoir des cancers du sein. Et après 69 ans, 28%. Ça, ce sont un peu les statistiques de manière générale. Donc, c'est pour dire que l'âge où on a plus de cancers du sein, c'est entre 50 et 69 ans.
Docteur, comment se passe alors le diagnostic du cancer du sein?
Bon, pour le diagnostic du cancer du sein, la première chose la plus importante, c'est la palpation. Puisque j'ai dit que c'est une boule. Alors, c'est quand vous palpez, vous sentez qu'il y a une boule, là, il faut vraiment faire attention. Et maintenant, quand vous allez chez le médecin, il va vous demander une mammographie, il peut demander une échographie, il peut demander des examens plus approfondis comme l'IRM. Le médecin peut aussi faire une ponction pour aller regarder les cellules au niveau du microscope pour voir s'il y a des cellules cancéreuses. Là, il va maintenant vous dire que non, voilà, vous avez un cancer.
Comment se traite le cancer du sein, docteur?
Oh, le traitement du cancer du sein dépend beaucoup plus du stade, hein, de la tumeur. Plus le stade est avancé, et aussi on fait un bilan d'extension pour savoir s'il y a des métastases ou d'autres organes sont atteints, et c'est ça qui va déterminer le cancer. Si c'est encore un stade au début, il n'y a pas affection des ganglions autour, là on peut juste enlever la tumeur. Mais s'il y a quelques extensions, on peut enlever la masse et les ganglions, ou enlever carrément tout le sein. Il y a aussi d'autres traitements, il y a la radiothérapie, il y a l'hormonothérapie. Le choix du traitement dépendra beaucoup plus du bilan d'extension.
Tout ça, c'est coûteux.
Oui, c'est coûteux. Et il est important vraiment d'avoir un centre de cancérologie ici pour améliorer un peu tout ce traitement.
Docteur Adolphe Nkongolo, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Quelles recommandations faites-vous aux femmes dans le cadre des mesures préventives?
La première chose que nous recommandons toujours, c'est le dépistage. Il faut vraiment que les femmes elles-mêmes se fassent ce qu'on appelle une autopalpation.
Elles-mêmes, à la maison,
oui,
chaque jour,
régulièrement. Une autopalpation, c'est vraiment une bonne manière pour elles de se rendre compte si elles ont ou pas une masse au sein. Et elles peuvent consulter leur gynécologue qui peut leur montrer comment est-ce qu'elle peut se faire de manière simple afin qu'elle puisse se rendre compte régulièrement. Et à partir d'un certain âge, il est recommandé de faire des mammographies de manière systématique. Nous avons même écrit dans notre stratégie nationale de lutte contre les cancers du sein et du col rôle de mettre en place un système systématique de dépistage et que ça soit pris en charge par les mutuelles. C'est mieux de prévenir que d'arriver avec une femme et de la traiter d'un cancer qui va être très cher et la femme peut même en mourir et laisser les enfants. Mais si on fait un dépistage, on peut éviter toutes ces choses-là. Et comme je l'ai dit, les facteurs de risque environnementaux, ce sont des facteurs simples. Éviter l'alcool, éviter d'être sédentaire, c'est-à-dire les femmes doivent faire d'exercice physique, une alimentation équilibrée, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et ça, ce sont des petites choses simples. Dans beaucoup de pays, systématiquement, le dépistage commence à partir de 50 ans. Alors en ce moment, tous les deux années, il faut que la femme passe pour qu'on fasse ces examens-là. Et nous, on a réfléchi, on s'est dit non. Chez nous, comme nous commençons, c'est mieux d'avancer un peu. Nous discutons entre 40 et 50 ans. Il faut qu'on commence déjà systématiquement à faire ces examens.
Docteur Adolphe Nkongolo, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Honoré.
La nouvelle de province nous conduit ce dimanche à Bouta, dans le Bazouélé. Certains habitants du village Bokapo, à 65 km de Bouta, ont déserté leurs habitations pour trouver refuge dans la forêt ou dans des villages voisins. Ils ont fui les représailles après le meurtre d'un enfant la semaine dernière, tué par un chasseur. Une délégation de la MONUSCO de passage sur les lieux a appelé la population à la cohabitation pacifique. Dorcas Kankou pour les reportages.
L'incident remonte à la semaine dernière lorsqu'un chasseur a abattu une fille de 13 ans par balle dans la forêt après l'avoir confondue à un gibier. Informés, les membres de la famille se sont pris à la famille du chasseur en représailles. Les bilans fait état d'incendie de 3 habitations avec tous les biens et documents importants, notamment un diplôme d'état. Il s'en est suivi ensuite le pillage de près d'une cinquantaine de bêtes. Chèvres, moutons, poules et canards ont été emportés. L'auteur présumé du meurtre a été arrêté par la police et acheminé à Bouta pour l'instruction de son dossier au parquet de grande instance de cette entité. Le bureau des affaires civiles de la MONUSCO en mission dans la région a sensibilisé les leaders de la communauté trouvés sur place à privilégier la voie du dialogue en vue d'apaiser les esprits et mieux gérer les conflits. Ceci permettrait à ceux qui ont déserté leur habitation de revenir y vivre en toute quiétude, surtout que cette affaire est déjà prise en charge par la justice. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question concerne les dispositions sécuritaires des funérailles d'Étienne Tshisekedi. Elle a été posée mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Le porte-parole de la MONUSCO, Félix Bass, répond.
C'est Isaac Mbenza pour le compte DRC Today et Congo Alelo. Depuis l'annonce du décès du leader de l'IDPS, M. Étienne Tshisekedi, j'ai été alimenté à plusieurs reprises. Mais j'ai une inquiétude par rapport aux dispositions sécuritaires qui puissent être prises pour qu'il n'y ait pas de mort. Les combattants et les policiers de la PNC, c'est comme la souris et le chat. Les combattants disent qu'ils ne veulent pas voir un seul policier en tenue de la police pendant les funérailles. Ils suggèrent que les casques bleus prennent soin de la sécurité pendant les funérailles. Est-ce que vous serez en mesure d'envoyer les casques bleus pour qu'il n'y ait pas les affrontements? Mais
d'abord, je voudrais souligner que la force de la MONUSCO n'est pas une force de substitution, mais c'est une force qui appuie le gouvernement congolais dans ses efforts de sécurisation de manière très générale de la République démocratique du Congo. Je pense que cette question, vous devez plutôt la référer aux autorités congolaises, mais vous savez que nous sommes toujours là, prêts à pouvoir appuyer les autorités dans leurs efforts de pacification de manière très générale.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Voilà, je m'appelle Gisèle Cage. J'ai 1m64, la trentaine. J'ai été recrutée à Radio Okapi depuis 2002. Et c'est le 25 février 2002 que nous avons lancé nos premières émissions ici au Nord Kivu. Je venais donc de la RCMC, ici même à Goma. Et en 2002, c'était donc la naissance de Radio Okapi. J'ai postulé comme tout le monde. J'étais la seule femme à passer le test de recrutement et j'ai été retenue. Et le 25 février 2002, nous avons lancé nos premières émissions. Et c'était pendant Kassan City en Afrique du Sud, c'était né le dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et les différents belligérants dans le RCD Goma. Bon, j'ai d'abord commencé comme journaliste et reporter, présentatrice du journal en français et traductrice de Lingala.
C'est vrai qu'au début, c'était très difficile de s'adapter. Je découvrais un autre rythme de travail. Je me souviens qu'à l'époque, hein, quand j'étais à la RTMC, l'un des directeurs de la RTMC nous disait tout ce que nous vivons quotidiennement, nous pouvons en faire des sujets. Et à la Radio Capi, j'étais face à cette réalité. C'est chaque jour qu'il fallait amener au moins un sujet à la rédaction, et c'est chaque jour qu'il fallait aller sur le terrain à la récolte des informations. Donc il fallait en même temps récolter, traiter, diffuser et traduire dans les langues nationales. Et en 2007, j'ai été nommée secrétaire de rédaction. J'ai exercé cette fonction jusqu'en 2009, avant d'être remplacée par Julie Galawamouna. Et en novembre 2015, ma hiérarchie au niveau de Kinshasa m'a proposé de coordonner le travail de la rédaction en remplacement donc de Julie Galawamouna. Donc, j'ai toujours été matinale au bureau. Et on commence généralement le travail ici à Radio Capi à 8 heures juste. Et moi, je suis arrivée au bureau déjà vers 7h10 ou 20, tout au plus. Dès que j'arrive, qu'est-ce que je fais? Je commence d'abord par appeler l'intérieur de la province pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, s'il y a des événements sur lesquels on peut couvrir la journée. Et à 8h juste, je dirige donc la réunion de la rédaction où chaque journaliste présente son sujet. On détermine d'abord des sujets qui doivent être envoyés à Kinshasa et des sujets que nous allons consommer dans le décrochage local. Par après, je participe à la réunion de rédaction téléphonique de Kinshasa où je propose des sujets. Et après la réunion de Goma, qu'est-ce que je fais? J'établis un préconducteur dans lequel je donne les tâches à chaque journaliste qui va faire quoi. Et c'est pas à dire que je m'exclus, non, parce que je fais également le travail de journaliste. Donc je récolte les informations comme tout le monde par téléphone avec les différents partenaires qui sont sur le terrain pour savoir réellement ce qui se passe. Hein, donc je ne m'exclus pas, je fais le travail comme tout le monde, même si je coordonne la rédaction et je passe à l'antenne comme tout le monde, parce que je fais également de grands dossiers, je fais de grandes rubriques comme dossier, magazine, invité. Je suis exigeante hein, dans ce que je fais, dans mon travail. J'aime ce que je fais et je donne beaucoup plus de temps à mon travail. Bon, il y a des gens qui se posent beaucoup plus des questions de savoir pourquoi je m'attache au sujet militaire. D'abord, c'est parce que j'ai des très bons contacts. Et finalement, j'ai compris que c'était un domaine qui était très important pour moi. J'ai couvert plusieurs guerres ici, à l'est de la RDC, notamment la guerre de Laurent Kunda. Et j'ai été même dans le maquis de Laurent Kunda. J'ai passé la nuit et j'ai fait l'interview avec ce chef rebelle. C'est à cette époque que j'ai rencontré Bosco Ntaganda, qui venait de fuir l'Ituri alors qu'il était recherché par la justice, d'abord congolaise et puis la justice internationale. Et puis je suis resté en contact permanent avec le CNDP. Je couvrais en tout cas presque toute la guerre hein, des FARDC contre le CNDP de Laurent Kunda. Et c'était la même chose quand le M23 est né. J'ai aussi couvert la guerre du M23. J'ai couvert des sommets des chefs d'État de la CIRGL. J'ai aussi couvert de pourparlers donc entre le gouvernement et le M23, toujours à Kampala. Et à l'entrée du M23, j'étais dans la rue, j'ai couvert l'événement, prise de Goma, j'ai couvert jusqu'à leur retrait. Il y a eu finalement aussi l'offensive lancée par le FARDC contre le M23. J'étais toujours très matinale et je peux dire que je suis vraiment accro au travail. J'aime faire plus. Même quand je n'étais pas secrétaire de rédaction, je faisais le terrain. Quand on me donne un sujet ou deux, moi j'en faisais toujours trois ou quatre. Et je suis très sérieuse dans ce que je fais. Je néglige rien. Je ne fais pas du sensationnel. J'ai toujours pris mon temps de recouper hein, les informations. Je prends mon temps de vérifier. Et si l'information n'est pas vérifiée, c'est pourquoi il est très difficile de me reprocher finalement que j'ai pas bien fait mon travail. C'est vrai qu'on ne peut pas aussi satisfaire tout le monde. Et je suis exigeante. Je suis sérieuse. Et je crois que mes chefs ont confiance en moi, en mes capacités de coordonner. Mais par rapport aux bons souvenirs en rapport avec mon travail, il y en a tellement. Aujourd'hui, je peux dire que Radio Capi est un outil très important pour moi. Au sujet de ma rêve, je rêve toujours d'un Congo pacifié, uni, où on n'aura plus de guerre, un pays où tous les enfants seront à l'école, pas dans des groupes d'armées et forces négatives, hein,
à un Congo où on ne parlera plus des femmes violées. S'agissant de mes projets, ce qui me tient à cœur, c'est d'ouvrir une fondation qui s'occupera également des enfants en situation difficile, particulièrement ceux issus du viol. Je compte vraiment redonner la joie à ces enfants. Voilà.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Ce lundi 13 février, la communauté universelle célèbre la journée mondiale de la radio. Un rendez-vous à noter dans vos agendas. Vous l'avez compris, nous sommes à la fin de ce magazine. Jean-Pierre Elali Koko a réalisé et coordonné cette édition. Il était aussi au reportage. Elle a connu aussi le concours de Dorcas Kankou. Jean-Noël Mokondo était à la technique. Et moi, Nadine Foulantimba, je vous l'ai présenté. Vous voulez réécouter cette émission? Tapez www.radiocapi.net. Excellente journée dominicale à tous en compagnie des programmes de Radio Capi.